Bon, premier sujet ce matin, le Cirque du Soleil. Guy Laliberté qui veut racheter le cirque, mais pas n'importe quel prix.
Façon de dire qu'il y aura négociation, Paul. Mm-hmm. Mais ce que j'aime, bon, dans ce cas-là, c'est que c'est une belle représentation de ce qui se passe présentement dans les grandes entreprises, ou les grandes PME, ou même les PME régulières. On a une entreprise à profit, 155 millions US, 1,04 milliard de revenus, donc 15 % de marge par année. Dans le passé, avant qu'arrive la COVID. Après ça, whoop, problème financier parce qu'il n'y a plus de revenus. Tout d'un coup, boum, on licencie 95 % du monde et l'employé paye le prix. Et on va pointer les actionnaires du doigt en disant, écoutez, là, le groupe, là, vous avez racheté le Cirque du Soleil, mais en faisant ce qu'on appelle un leverage buyout, un achat à levier financier. Et donc, vous avez fortement endetté l'entreprise pour faire du rendement. Et par conséquent, vous avez payé le prix au bout du compte. Bon, il y a deux côtés à cette médaille. Le premier côté, c'est de dire, si tu veux acquérir une grande entreprise comme celle-là, ne pas l'hypothéquer pour l'acquérir, ça prend beaucoup de capital. Et pour donner du rendement à tes actionnaires, ben, ce que tu fais d'habitude, c'est que tu regardes qu'est-ce qui est le plus rentable présentement. Comme le coût de financement est pas cher, tu vas faire un emprunt à même la compagnie pour l'acheter. Puis, il y a une logique financière derrière ça, il y a une logique des écoles de pensée derrière ça. Par contre, ce qu'on voit présentement, puis ce qu'on voit dans plein de grandes entreprises, c'est que cette espèce de quête de croissance maximale depuis des années a amené un côté négatif. On a voulu se financer pas cher et donc faire des rachats d'actions, donner des dividendes aux actionnaires, donner du rendement aux actionnaires, faire des acquisitions multiples pour soutenir la croissance, soutenir la valeur. Et on a affaibli la capacité d'autosuffisance des entreprises au nom de la rentabilité. Et donc, tu as des entreprises comme le cirque fortement affectées, mais il y en a d'autres. Là, présentement, Paul, tu as des entreprises, présentement, à l'heure où on se parle, qui se versent un dividende à des actionnaires, à des groupes d'investisseurs, en même temps, de l'autre côté, demandent à l'État de l'aide, en même temps, demandent à leurs employés de couper leur salaire. Alors, tu as cette réalité-là, qui d'un côté, d'un point de vue logique, oui, ça va mal, mais ce sont encore une fois les employés qui vont payer quelque part. Et dans le cas précis du cirque, là, on se ramène à un côté beaucoup plus qu'est-ce qu'on va faire, parce que en 2008, oui, quand on avait vendu une partie à Dubai World, on était déjà dans une société qui se rationalisait pour montrer un meilleur portrait pour se faire vendre. Et donc, la relation entre création, concurrence, audace et risque au cirque, c'est pas comme chez Rona. T'sais, c'est difficile de quantifier combien de dollars faut que je mette
mais
dans la créativité
artistique.
Mais
comment tu fais pour relancer le cirque? T'sais, c'est quoi la valeur du cirque maintenant? Là, t'sais?
Écoute, on peut faire le parallèle avec Juste pour rire. T'sais. Vendre Juste pour rire il y a un an ou deux ans, ça valait une fortune par rapport à maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as dit toi-même, t'sais, ça va être quoi demain le cirque? Comme spectateur.
Mais même là, en temps normal, ils ont quand même eu des échecs, là, si on va être franc, là, sur certaines productions. Comment tu fais pour relancer, comme l'exemple que je donne, c'est un de mes amis qui a toujours adoré le cirque, puis qui a commencé à délaisser le cirque parce qu'il trouvait que c'était pas mal la même affaire, là, tout le temps.
Ça, c'est l'autre point. On peut être émerveillé par un modèle d'affaires pendant 10, 15, 20 ans, puis à un moment donné, ça c'est l'autre affaire, l'offre de services pour le divertissement a changé, les expériences ont changé. Si tu vas voir l'influence d'Instagram et tout ça, on dit au monde, découvrez des paysages, voyez l'infini, c'est beaucoup moins aller à Las Vegas regarder un spectacle, tu vois. Fait que ça aussi, il faut le penser, on dit, on ramène Guy Laliberté, on va réinvestir, on va réinventer le cirque, ou est-ce que le cirque peut encore attirer autant de cash flow dans le futur que dans le passé, avec ce que le consommateur maintenant vit et perçoit comme valeur. Parce que lui-même, dans ses habitudes, je suis pas sûr que dans les 4 prochaines années, ça va me tenter d'aller à Las Vegas vivre dans une place inventée pour le divertissement collé, alors que on m'appelle beaucoup plus à me distancier des gens. Donc, il y a quand même une nuance importante. J'ai hâte de voir, mais le prix de vente va être évidemment en fonction de qui va faire une offre puis combien de personnes puis à quelles conditions. Mais on peut comprendre que, disons que le prix vaut peut-être moins que 2 ans.
Et un mot aussi sur l'impact de cette pandémie, de cette crise sur les finances personnelles.
Oui, parce qu'il y a plusieurs questionnements. Le premier questionnement au niveau terre à terre, c'est la capacité de négociation. Il n'y a rien de pire présentement qui est en négociation salariale. Parce que l'employeur dit, oh, on n'est plus en pénurie de main-d'œuvre, il y a de la main-d'œuvre qui a perdu son emploi. Il y a une fin abrupte de plusieurs commerces. Il y a moins de capacité de négociation. Il n'y a pas vraiment d'inflation majeure. On a un problème économique majeur. Donc, de ce côté-là, tout le monde qui doit négocier son salaire se retrouve en finances personnelles à être au beau fixe. Après ça, du côté de la fiscalité, tout le monde qui va avoir eu de l'aide cette année doivent tellement prévoir, surtout les salariés qui ne sont pas habitués de pas se faire, de se faire prélever de l'impôt à la source. Là, ils doivent se dire, OK, là, j'ai eu du cash flow, je l'ai dépensé, mais j'ai une coupe de 100 piastres, voire des milliers de dollars à mettre de côté pour l'impôt. Après ça, stratégie de placement. Si on est riscophobe, on veut peut-être accepter de perdre plus de risques pour se sécuriser. Et si on est riscophile, c'est-à-dire qu'on aime le risque, mais pour faire du bon rendement, on va peut-être se dire, il va falloir que je prenne plus de risques avec ce qui se passe présentement sur les marchés. Et du côté de la valeur de l'immobilier, là, c'est l'autre point. Il y a des chômeurs de plus en plus. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il y a moins de sécurité. Il y a plus de télétravail. Donc, quel sera l'impact sur le marché immobilier de cette patente-là? Parce que même le chef de la direction de la CHL a dit, écoutez, pour les 12 prochains mois, là, je m'attends à une chute des prix de l'immobilier de 9 à 18% au pays, dépendant des régions, et une augmentation des défauts des retards sur les prêts hypothécaires. C'est quelque chose de complètement, complètement extraterrestre par rapport aux informations qu'on avait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, si t'es vendeur ou acheteur présentement, tu dois te demander, est-ce que je fais une bonne affaire? Est-ce que la patience me paierait? Alors, c'est vraiment au niveau des finances personnelles, on est dans ce qu'on pourrait appeler une zone de risque, une zone d'inquiétude. Il faut vraiment rester terre à terre, se dire, est-ce que je suis dans le long terme ou dans le court terme? Si je suis dans le long terme, peu importe le domaine, ce sera un jour payant.
Merci, monsieur. Bonne journée. À demain.
Salut.
Il est 7h23.